France Inter. Bien que ce livre traite en premier lieu des femmes, il ne leur est pas réservé. J'ai le furieux espoir que des personnes de tous les genres le liront et en retireront quelque chose. Il faut qu'un maximum de gens participent à la lutte pour l'égalité entre les sexes. Les hommes ne devraient pas craindre l'incompréhension, ils ne devraient pas ressentir le besoin de se justifier, comme moi autrefois, quand ils soutiennent leurs sœurs, filles, femmes, mères, amies et autres égales humaines. Les femmes ne peuvent résoudre seules le problème des violences sexuelles. Les hommes doivent faire partie de la solution. Denis Mukwege est ce soir notre invité à l'occasion de la publication de son livre intitulé « La force des femmes ». Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera Gaëlle Faye.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation recouverte d'un linceul, petit pays, pendant 3 mois tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de vous haïr quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné quand je partais en vrille. Seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets, quand on s'encanaille, je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale, à force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines, Bujumbura et ma luciole dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août, et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka.
Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Je t'aime, ça j'en suis sûr.
Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya.
Et d'abord, Denis Mukwege, le miracle de votre naissance. Vous ne devriez pas être là dans ce studio ce soir. Vous ne deviez pas naître.
En effet, 60 ans plus tard, nous continuons à perdre des bébés par des infections néonatales. Et effectivement, si je suis là, c'est puisqu'il y avait une femme forte qui s'est battue pour que je puisse survivre d'une septicémie néonatale.
Et dans ce livre, vous racontez comment des personnes issues de mouvements religieux n'ont pas voulu aider votre mère alors qu'elle était en très grande difficulté. Comment vous l'expliquez aujourd'hui ?
Je crois que la discrimination, elle ne date pas d'aujourd'hui. Et ma mère s'était battue contre la pauvreté, elle s'est battue contre le racisme et elle devrait se battre contre la discrimination religieuse. Et je crois que ça faisait beaucoup de barrières pour elle. Mais aujourd'hui, je suis très fier d'elle, puisque finalement, elle est arrivée quand même à obtenir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire que j'ai des soins appropriés.
Double éducation, Denis Mukwege. Votre mère, qui vous a enseigné la force, le courage, la puissance des femmes. Et puis votre père, qui vous a enseigné une éthique aussi, un art de vivre et un art de la morale et de l'égalité, de la lutte pour l'égalité.
Ma mère, très jeune, je ne comprenais pas ses attitudes, puisque je voulais être comme tous les autres petits garçons. J'étais le premier garçon de la fratrie, donc je devrais normalement bénéficier des avantages, entre guillemets, des garçons dans la société patriarcale qui était la nôtre à l'époque. Mais ma mère insistait beaucoup sur le fait que je devrais apprendre à me débrouiller. Je devrais faire tout ce que mes sœurs faisaient, donc la vaisselle, la lessive, le repassage. Et c'est vrai que parfois...
Et vous n'êtes pas révolté?
C'était dur quand, par exemple, les copines de mes sœurs arrivaient à la maison et qu'elles me trouvaient en train de faire des travaux domestiques. J'étais un tout petit peu révolté. Je trouvais que ma mère était dure avec moi. Et puis, il y avait ma grande sœur, elle avait un respect. Mon père spécialement la respectait de façon exceptionnelle. Et donc, moi, j'avais cette impression que ma mère me traitait avec dureté en m'empêchant de jouir de tout ce que les autres petits garçons de mon âge, surtout le premier-né des garçons. Mais de l'autre côté, j'avais un père qui avait une douceur, qui avait des mots quand il vous parlait, il savait mettre les mots sur les choses, et que souvent je pouvais préférer quelqu'un qui me gifle que, par exemple, me parler comme mon père me parlait. Mais en fait, je crois qu'avec...
La douceur, elle était du côté du masculin dans votre famille.
Absolument. Mon père, c'est quelqu'un qui ne pouvait pas tolérer de voir les gens même se disputer, même comme enfant, quand on pouvait hausser les taux. Je sais que mon père, souvent, il nous disait « Arrêtez, et si vous n'arrêtez pas, c'est lui qui est plutôt quitté. » Donc, il avait une douceur exceptionnelle. Je ne l'ai jamais vu lever sa main pour sanctionner. Par contre, il savait donner les conseils, il savait parler avec ses enfants, avec son épouse. C'est vrai, c'était une éducation de ma mère et de mon père.
Est-ce parce que vous étiez l'aîné de la famille, Denis Mukwege, que vous avez pu faire des études approfondies ?
Pas du tout, parce que en fait, mes sœurs et mes frères ont fait aussi des études. Je crois que pour les études approfondies, encore une fois, ma mère a utilisé toutes les astuces féminines pour m'amener à pouvoir tenir le contrat que j'avais fait à mon père. Et je crois que de temps en temps, j'étais à côté où je voulais tout simplement faire autre chose, où les circonstances de la vie ne m'avaient pas permis d'être là où je devrais être. Mais ma mère, elle savait ce qu'elle voulait pour son fils, sans pouvoir me le dire ouvertement. Mais c'est aujourd'hui que je me rends compte quelle force elle avait.
Mais aujourd'hui, comment comprenez-vous que vous ayez choisi, quand vous étiez un jeune homme, de devenir un chirurgien et un gynécologue ? C'était pas si fréquent.
Effectivement, je n'avais jamais pensé être gynécologue, obstétricien. Ce n'était pas dans mon plan. Je crois que quand j'ai fait le pacte à mon père, je lui avais plutôt dit que je voudrais devenir munganga, ça veut dire soignant, puisque j'étais avec lui. C'était un pasteur protestant. En faisant sa visite pastorale, j'aimais bien l'accompagner. Et ces jours-là, on arrive dans une famille qu'il avait appelée pour un enfant malade, et mon père va prier pour cet enfant. Après avoir prié, il a dit au revoir, et j'étais un peu choqué, je trouvais qu'il n'était pas juste, puisque moi, quand j'avais des problèmes de santé, il priait pour moi, et après il me donnait des médicaments, et je posais naïvement la question à mon père: papa, pourquoi à lui vous ne donnez pas des médicaments comme vous faites à moi? Et mon père m'a tout simplement répondu: je ne suis pas médecin. Et donc j'ai dit à mon père, je serai médecin, comme ça, moi je donnerai le médicament et vous allez prier. Et je crois que depuis, c'était l'âge de 8 ans, depuis, j'ai vraiment tout fait pour atteindre cet objectif. Mais donc c'est ainsi que je vais faire, par exemple, ma thèse en pédiatrie sur la vaccination des nouveau-nés contre l'hépatite virale B. Quand je commence à travailler, je suis allé travailler dans un hôpital rural, et là je découvre une situation que je ne pouvais pas imaginer, que chaque jour je verrais des femmes qui meurent en couche. Et c'est vrai qu'après une année dans cet hôpital de l'Emera, j'avais décidé de venir ici en France pour faire de la gynéco-obstétrique.
Vous vous souvenez de la première naissance, de votre première naissance ?
Ce qui m'a beaucoup marqué à l'hôpital de l'Emera, c'est en 1982, alors que le médecin chef qui était là à l'époque, docteur Sven Haugsted, c'est un Norvégien, il avait décidé d'aller voir ses enfants à Bujumbura, et il m'a laissé la responsabilité de l'hôpital. Et vers 2h du matin, on me réveille, puisqu'il y a une femme qui va très mal. Et donc, j'étais encore très jeune, je n'avais pas une expérience par rapport à ça. J'ai couru vite, mais arrivé là, je dois vous dire que quand je fais les diagnostics, je me rends compte qu'il faut absolument faire une césarienne en urgence, puisque je craignais qu'il y avait une rupture utérine. Et effectivement, quand j'ai ouvert l'abdomen, il y avait une rupture utérine. Je ne savais pas très très bien comment me prendre par rapport à ça. Et c'était la première fois que je pouvais opérer avec un livre à côté en demandant des conseils aux autres. Donc ça m'a beaucoup marqué.
Dans ce livre tout à fait incroyable et très fort que vous publiez ces jours-ci, qui s'intitule « La force des femmes » de Denis Mukwege, vous parlez de la manière dont la guerre a atteint votre propre pays, le Congo. Et je ne savais pas à quel point cette contagion de ce drame du génocide au Rwanda avait eu des conséquences extrêmement graves dans la pratique de votre métier. Comment a commencé le drame du génocide à l'intérieur de votre propre pays ?
Lors du génocide rwandais, alors que je travaillais dans ce petit hôpital à l'Emera, j'avais commencé à organiser la lutte contre la mortalité maternelle, puisque c'était devenu mon combat à lutter contre...
Rappelez les chiffres.
En République démocratique du Congo, aujourd'hui, 7 femmes sur 1000 meurent en couche. Et ça, c'est énorme. Et ça, c'est les chiffres qui... Ces chiffres correspondent aux rapports qui vont à l'OMS. Mais toutes les femmes qui meurent en couche dans la forêt, où il n'y a pas de statistiques, certainement qu'on arrive très facilement à une femme pour 100 accouchements qui meurt en couche. Et ça, c'est énorme. J'ai fait mes études 5 ans que j'ai passé à Angers. Je n'avais jamais vu une femme mourir en couche pendant 5 ans. Et là, c'est une femme qui va mourir pour 100 femmes qui accouchent, c'est énorme comme taux de mortalité maternelle. Et moi, j'étais choqué par rapport à ça, puisque je savais très bien qu'il y avait la possibilité de lutter contre la mortalité maternelle en donnant aux femmes des soins obstétricaux de qualité. Et dans cet hôpital, j'avais commencé à organiser ces soins en créant des cliniques autour de l'hôpital qui pouvaient recevoir les malades, les femmes. Et après une dizaine d'années, j'ai commencé à trouver qu'il y avait des changements, il y avait des résultats. On pouvait maintenant passer plusieurs semaines sans voir une femme qu'on amène sur un brancard qui a saigné à mort. Malheureusement, en 1996, deux ans après le génocide rwandais, mon hôpital avait été attaqué et tous les malades qui ne pouvaient pas se déplacer, y compris les malades que j'avais opérés, étaient tués dans leur lit. Le staff qui n'avait pas fui également avait été tué. Et là, c'était un drame pour moi. Je sais que j'ai pris pratiquement deux ans avant de recommencer à opérer, tellement c'était dur. Vous savez, lorsqu'on est médecin, on a quand même une certaine responsabilité. Et j'étais quelque part culpabilisé du fait que ces malades étaient sous ma responsabilité, mais que je ne pouvais pas les sauver. Moi-même, je savais que personne ne pouvait attaquer un malade. Malheureusement, c'est arrivé. J'étais absent de l'hôpital quand l'hôpital avait été attaqué. Et à partir de ce moment, toute ma vie a changé.
Elle a basculé, votre vie, Denis Mukwege, parce que durant toutes ces années, vous aviez conçu un dispositif qui fonctionnait très bien pour aider la santé des femmes à l'accouchement, à la naissance, à quelque chose d'éminemment joyeux, jubilatoire de l'existence. Vous êtes passé à une autre phase, c'est-à-dire que vous avez vu dans votre hôpital des femmes arrivées vers vous qui, elles, avaient été torturées et avaient subi un viol, deux viols, 50 viols, etc. Et donc, tout d'un coup, autre chose s'est passée à l'intérieur de votre réflexion de chirurgien, d'obstétricien, mais aussi à l'intérieur de votre combat pour les femmes.
Absolument, et là c'est un autre virage, puisque je trouvais déjà que la mortalité maternelle était grave dans la région, et je me posais la question, pourquoi vient s'ajouter ces nouveaux drames sur les femmes? Et là c'est en 1999, alors que j'étais en train de monter un petit hôpital pour répondre et continuer mon travail, lutter contre la mortalité maternelle dans la ville de Bukavu. Je suis déplacé interne et malheureusement la première victime que je vais soigner n'était pas venue pour accoucher. C'est une femme qui avait été violée après avoir subi ces viols que je considère déjà graves et ignobles de subir des gestes comme ça. Cette femme, on a tiré sur elle, spécialement sur son appareil génital. Et c'était la première fois que je voyais quelque chose comme ça. Ça m'a bouleversé. Mais je me disais, c'est juste un acte isolé, peut-être d'un malade mental. Je ne pouvais pas imaginer que 20 ans après, je serais en train toujours de soigner ces types de barbaries humaines, une guerre qui se joue sur le corps des femmes.
Je vous propose d'écouter le témoignage d'une femme qui a été violée par plusieurs hommes au Congo. C'est une archive INA de 2010.
Quand nous avons ouvert, alors nous avons vu que c'était des agresseurs qui sont venus chez nous dans la maison. Ils ont pris mon mari, ils l'ont tué. Après avoir tué mon mari, ils m'ont violé, ils étaient au nombre de 20. Après m'avoir violé, ils m'ont coupé les doigts, comme vous venez de le voir. Et ils ont pris les cadavres de mon mari, ils ont coupé les sexes de ces cadavres. Ils ont pris le ventre de ces cadavres, ils ont ouvert, ils ont pris les intestins, ils ont enfermé le pouce, mon pouce et le sexe de mon mari. Donc ils m'ont obligé de manger. Quand j'ai mâché, je ne voulais pas avaler, mais ils ont commencé à me couper un peu partout, les visages un peu partout, les cuisses un peu partout. C'est-à-dire, je voulais vous expliquer comment mon mari a été tué. Quand ils l'ont fait sortir à l'extérieur, ils ont appelé mes enfants, ils ont vu ma fille de 14 ans, ils ont pris mon mari, ils l'ont déshabillé. Alors ils ont voulu à ce que mon mari puisse violer sa fille. Alors ils ont fait coucher de force mon mari sur sa fille. Et alors après ça, ils l'ont fait trois fois, à trois reprises. Après ça, ils l'ont coupé, ils l'ont tué, ils ont tué aussi la fille et tuer les 5 autres enfants qui étaient sortis de la maison. C'est ainsi que je suis restée seule, puisque mes parents étaient déjà décédés avant, mais ce n'était pas à cause de la guerre. Mais mes frères, on les avait tués là où ils étaient partis chercher de la matière première, et un peu à une centaine de kilomètres de chez nous. Je suis en train de me demander, je vais rentrer où, je vais vivre comment. Je n'ai pas de parents, je n'ai pas de famille, je n'ai pas de frères, je n'ai pas des enfants. Je suis ici, je suis seule, alors je me demande, et je vais rester où, je vais aller où.
Nous venons d'entendre cette archive bouleversante de Denis Mukwege. Je pense que vous avez dû entendre des centaines et des centaines de témoignages, comme cette femme très courageuse qui vient dire, énoncer par des mots ce qui lui est arrivé. Et dans votre ouvrage, qui n'est pas simplement le récit d'un itinéraire, d'un engagement, d'une résistance au mal, c'est aussi un livre de philosophie à partir de votre expérience. Comment penser l'impensable quand on y est confronté comme vous?
Effectivement, quand je soigne, comme je l'avais dit, la première victime, et je vois des lésions qu'elle présente, et qu'elle me raconte comme la femme qui vient de nous raconter ce qu'elle a vécu, ma première réaction était de dire, c'est pas possible, ça doit être un malade, c'est quelqu'un qui a perdu la tête, on ne peut pas être un homme normal et commettre des actes comme ça sur un autre humain, ce sont des choses que même les animaux ne peuvent pas faire. Et progressivement, quand je soigne, ça c'était en septembre 1999, et en 2000, j'avais déjà soigné, donc 3 mois après, j'avais déjà soigné 45 femmes et qui avaient presque la même histoire que l'histoire que vient de nous raconter cette femme. Et là, je commence à comprendre qu'il y a quand même une nouvelle pathologie, une nouvelle maladie dans la région, puisque j'étais déjà dans la région depuis un certain nombre d'années, donc je connaissais parfaitement la pathologie de la région. Et là, ce sont des femmes qui viennent avec des mutilations génitales, après avoir été violées, elles sont torturées, et ce sont des tortures où on ne veut pas les tuer, mais on veut marquer, donc les laisser avec une marque, avec un cachet de ces atrocités. Et là, effectivement, je commence à m'interroger sur l'homme, comment l'homme peut se comporter de cette façon. Et c'est vrai que, vous allez voir dans les livres, j'ai décrit que c'est tout simplement, puisque dans la société, en fait, souvent, les hommes ne considèrent pas les femmes comme état égal. C'est un problème qui part, donc, qui a son soubassement à cette question d'égalité femme-homme. Et à partir du moment où vous ne traitez pas l'autre comme votre égal, que vous n'avez pas d'empathie, vous n'avez pas de compassion par rapport à la souffrance de l'autre, eh ben vous traitez l'autre comme vous entendez. Et dans ces livres, par exemple, j'ai pris le courage de parler avec un jeune enfant soldat, et je crois que j'avais coupé notre discussion quand il m'a dit, quand vous égorgez une chèvre ou une poule, qu'est-ce que vous sentez? Ça ne vous donne rien. Et nous, quand nous faisons ça sur les femmes, ça ne nous donne pas de sentiments. Et c'est vrai que je crois que c'est une question fondamentale qu'il faut pouvoir poser et pouvoir y apporter des réponses. Tant qu'on va continuer à être dans une société patriarcale où la femme n'est pas égale à l'homme, en droit et en fait, je crois qu'on risque de voir des problèmes comme ça, qui arrivent pendant les conflits, mais ils sont dans la société de façon plutôt latente. Et quand il y a les conflits où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de foi, les gens se comportent de façon tout simplement barbare, qu'on se pose toute la question de leur humanité surgit en surface.
Ces femmes que vous allez réparer, entre guillemets, que vous allez soigner, qui vont être acceptées et qui vont s'accepter progressivement parce que vous allez pouvoir les opérer, est-ce que vous pensez pouvoir et arriver à leur donner l'entièreté de leur dignité d'avant ? Ces femmes qui viennent vers vous, Denis Mukwege, elles ont beaucoup de courage. Déjà, il faut qu'elles viennent vers votre hôpital. Et d'ailleurs, vous avez eu le prix Nobel parce que vous faites un travail absolument exceptionnel. Ces femmes, déjà, il faut qu'elles aient le courage de venir vers vous, d'aller dans votre hôpital. Ce n'est pas si facile parce que quand une femme vient de subir la torture du crime du viol, elle se sent elle-même coupable. Elle a été séparée de sa communauté familiale et de sa communauté villageoise. Et vous, et c'est là que vous êtes absolument génial, vous allez lui proposer dans l'hôpital quelque chose qui va la réparer aussi psychologiquement. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous y arrivez à ce qu'elle redevienne comme avant, si j'ose dire ?
Je pense que pour arriver à ces traitements que nous appelons la prise en charge holistique des femmes victimes de violences sexuelles, c'est puisque nous-mêmes, on était confrontés à un problème. Une femme qui vient, elle a des blessures au niveau de l'appareil génital, elle est incontinente, urinaire, anale, et lorsqu'on fait la chirurgie, on arrive à remettre les sphincters en place, que la femme peut uriner normalement et qu'elle peut aller à celle normalement. Comme médecin, on est vraiment satisfait. On dit, bon, ben voilà, j'ai fait un travail formidable. Mais ce que nous avons constaté, c'est que la chirurgie, le traitement médical qu'on donnait à ces femmes était tout simplement une petite partie de ce qu'il faut faire lorsqu'une femme a subi le viol avec une extrême violence. Une femme qui se retrouve seule, elle avait 5 enfants, mais tous les 5 enfants ont été assassinés en sa présence, son mari également. Et donc, il y a un traumatisme profond. Ces viols avec extrême violence, ça n'a rien à voir avec le sexe. C'est une méthode, tout simplement, de torture pour pouvoir toucher le plus profond des personnes qui subissent ces viols.
Et donc, le viol comme arme de guerre.
Comme arme de guerre. C'est vraiment le viol qui est commis pour détruire la personne, mais détruire également toute sa communauté, détruire les tissus sociaux, détruire l'économie. Donc, lorsque, au début, on traitait les femmes jusque les années 2002, on s'était aperçu que le traitement chirurgical et médical ne suffisait pas pour que les femmes retrouvent la santé et qu'elles reprennent leur travail normal. Elles étaient à l'hôpital, elles se plaignaient de plein de choses sur le plan physique, on ne trouvait rien, mais la vérité était là, elles souffraient. Et donc, progressivement, on a découvert qu'il fallait absolument qu'on ait des psychologues. Et je pense que ces psychologues aussi, il y avait un deuxième fait, c'est que moi-même, je commençais à ne plus consommer ces histoires. C'était tellement dur de pouvoir écouter. Et ces victimes, elles veulent que vous les écoutiez. Elles veulent absolument parler à quelqu'un qui les écoute, puisque, comme vous l'avez très bien dit, elles sont non seulement culpabilisées, mais c'est comme si elles voulaient c'est justifier que ce n'est pas de leur faute. C'est comme ça que la société a modelé les femmes, même lorsqu'elles sont victimes, d'être obligées de s'expliquer par rapport au viol qu'elles ont subi. Et pour moi, ça commençait à être très, très difficile. L'impact sur mon travail, l'impact sur ma famille. Et la solution, finalement, on a pris des psychologues. Et quand on a pris des psychologues, assez rapidement, on s'est aperçu que les femmes, en fait, s'acceptaient mieux et qu'elles étaient bien physiquement, mais aussi mentalement. Elles pleuraient moins. Beaucoup commençaient à résoudre leurs problèmes d'insomnie. C'est vrai que lorsque la femme a subi ce que cette femme vient de nous raconter, c'est pratiquement impossible de penser qu'elle peut redevenir normale. Mais elle peut améliorer la qualité de sa vie. Et donc, nous, dans ces traitements holistiques, nous associons également une prise en charge économique, puisqu'on s'était rendu compte que même si la femme est forte physiquement, mentalement, mais lorsqu'elle n'est pas autonome, en fait, on la remet au village, on la remet dans les mains de ces bourreaux qui vont continuer à la violer. Et donc, on a commencé à soutenir les femmes, les enfants, on les amenait, donc on les inscrivait dans les écoles, mais les femmes adultes, on leur donnait la possibilité de gagner leur vie. Et ça, c'était formidable, moi, quand je voyais comment les femmes étaient capables de se battre pour elles-mêmes une fois traitées. Mais ce qui me touche encore beaucoup plus, c'est quand elles reviennent pour dire « je veux la justice, je connais la personne ». Je connais le commandant qui m'a violé. Il faut absolument que vous puissiez m'accompagner devant les cours et tribunaux. Et ça, c'est un courage exceptionnel. Je pense que quand les femmes arrivent à ce niveau-là, on observe cette transformation qui transforme leur peine en pouvoir. Et ce sont des femmes qui deviennent des leaders communautaires, ce sont des femmes qui ne se voilent plus la face, elles parlent avec force, et moi je suis admiratif, puisque quand je le vois venir avec toutes ces blessures psychologiques, physiques, et qu'après je trouve que c'est elles qui organisent leur village, c'est elles qui organisent les autres femmes, c'est elles qui vont en justice elles bravent la peur, etc. Je trouve que c'est formidable. Et je suis très admiratif.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, une heure bleue avec Denis Mukwege, à l'occasion de la publication de son livre La Force des Femmes. Nous allons écouter Myriam Makeba, Congo.
Sana milele miani mboka yanika kumuhini kambi nzembele miani mboka lundi la mwana busana o mama na utsetsam de konzari de la mama kambanza kandi tsiari o mama na otsetsam de konzari de la mama kambanza kandi tsiari mi Busana milele miani mboka yanika kumuhini kambi nzembele miani mboka lundi la mwana busana o mama na otsetsa munde konzari Tela mama kambanza kandi tsiari O mama na otsetsa munde konzari Tela mama kambanza kandi Tela mama kambanza kandi Tela mama kambanza kandi Tela mama kinzimbiki ni mwana Tela mama kinzimbiki ni mwana busana
Nous venons d'entendre Myriam Makeba. Que nous dit-elle, Myriam?
Myriam Makeba, elle est en train de chanter dans la langue congolaise de Kikongo et où... J'ai cru comprendre, elle est en train de vanter la mère et l'enfant. Moana, chez nous, c'est enfant.
Des enfants, ouais. Il est beaucoup question dans votre livre, Denis Mukwege, parce qu'il n'y a pas seulement les femmes, il y a aussi les petites filles, les jeunes filles, mais même les petites filles qui sont violées, qui arrivent dans votre hôpital. Il y a plusieurs portraits de petites filles, dont une petite fille de 12 ans qui a subi des crimes sexuels absolument atroces, que vous allez soigner, que vous allez protéger, qui va repartir, mais qui aura beaucoup de mal, comme les femmes que vous soignez, elle aura beaucoup de mal à se séparer de l'hôpital. Parce que l'hôpital est un monde, l'hôpital est un refuge, l'hôpital est l'endroit où non seulement on a été soigné, mais où il fait bon vivre. Et partir de l'hôpital, ça veut dire endurer l'adversité du monde. Comment faites-vous pour les encourager à partir, alors que vous savez très bien, Denis Mukwege, que quelquefois, eh bien, les viols vont pouvoir recommencer?
Malheureusement, et là, je dois vous parler de Wamunzila dans les livres, qui était une fille courageuse, qui a su me dire les choses correctement. Et malheureusement, je n'avais pas de solution. Et donc, après l'avoir soignée, elle ne voulait pas quitter l'hôpital. Et elle a insisté pour me dire que retourner dans mon village, je retourne tout simplement vers le danger. Et c'est vrai que l'hôpital a seulement quelques lits. Et nous soignons des milliers de femmes chaque année. À l'époque que Wamunzila était à l'hôpital, on soignait jusqu'à 10 patientes par jour. Donc c'était pratiquement impossible. Son lit, il y avait encore une patiente. Elle était guérie et il y avait des patientes qui attendaient leur chirurgie. Donc il fallait absolument la faire partir pour que quelqu'un d'autre occupe son lit. Et malheureusement, c'est vrai, quand elle est partie, elle a été encore violée. Et elle est revenue dans une situation plus grave que la première fois. Mais depuis, avec mon ami Yves Ansler, nous avons construit la Cité de la Joie. Nous avons également construit Maison Dorcas. À ces deux endroits sont des havres de paix où finalement les femmes qui ne peuvent pas retourner dans leur village, les filles qui sont rejetées par leur communauté du fait qu'elles ont été violées, et peuvent rester dans ces deux endroits jusqu'à ce qu'elles puissent trouver une autonomie qui leur permette de vivre soit en ville ou dans leur village, hors du danger.
Des hommes, il est beaucoup question. Tout en début d'émission, j'ai lu un court paragraphe qui est au début de votre livre et qui appelle les hommes à se questionner sur leur identité, leurs pratiques, et vous les exhortez à l'égalité des femmes et des hommes. Et vous avez un plaidoyer absolument magnifique pour la reconnaissance par les hommes de l'intégrité des femmes, dans tous les sens du terme. Mais ces hommes, quelquefois, ils sont des criminels, ils sont des violeurs, ils sont vos ennemis, Denis Mukwege, dans votre pratique quotidienne. Vous l'avez dit tout à l'heure rapidement au cours de l'entretien, un jour, dans votre hôpital, un jeune homme vient vers vous et puis va, vous voulez pas lui parler, vous voulez pas lui donner de temps, votre temps est trop précieux pour justement aider les femmes. Il insiste, il revient le lendemain. Finalement, vous lui accordez un soir un peu de temps. Cet homme, ce jeune homme qui a une vingtaine d'années, a été un enfant soldat. Et ce qu'il va vous raconter est absolument effrayant, parce qu'on a l'impression que c'est d'une emprise psychique, physique, mentale dont il s'agit, et qu'après lui avoir parlé, vous, Denis, vous n'allez peut-être pas lui faire entendre raison.
Eh ben, je crois que ce sont des enfants qui subissent un lavage des cerveaux et très jeunes, puisque lorsqu'elles entrent dans ces mouvements rebelles ou groupes armés à l'âge de 10-11 ans, ils écoutent tout ce que les adultes leur demandent de faire, par exemple.
Y compris de violer leur propre mère.
Exactement. Et ces jeunes hommes avaient non seulement commis des actes de violence sur ses parents, mais aller jusqu'à la mutilation de ses propres parents. Et je pense que là, c'est franchir la ligne rouge lorsqu'ils commettent ces actes sur leurs propres parents, ces actes de violence. On peut se poser cette question, est-ce qu'ils peuvent avoir des limites? Est-ce qu'ils peuvent se poser des questions par rapport aux autres qui ne sont pas leurs parents? Et là, je crois que c'est une responsabilité de nous, les hommes en général. Et je pense que ces hommes qui entraînent des enfants à faire du mal, moi, je trouve que c'est une lâcheté. Quoique ces jeunes qui commettent ces actes, ils sont des bourreaux, mais également des victimes, puisque ces garçons que j'avais vus, il est complètement malade. C'est un garçon qui n'a pas pu reconstruire sa vie. Il ne peut plus retourner dans son village. Il ne peut plus rencontrer les personnes de son village par rapport à ce qu'il a fait dans le village. Et je pense que ça, effectivement, ce sont des personnes qui doivent être interpellées. Et c'est pour ça que dans ces livres, j'insiste beaucoup sur la justice, puisque à partir du moment où la justice ne fonctionne pas, un jeune qui a commis des actes barbares de ce type et qui soit en liberté, où le commanditaire, et donc le groupe armé dans lequel il était, avait un commandant. Que ces commandants soient en liberté, je pense que c'est une façon d'encourager les barbaries contre les femmes. Il faut absolument que... aujourd'hui, nous avons de très très bonnes lois, mais ces lois s'appliquent difficilement.
Ce jeune homme, il est en liberté. Ce commandant, il est en liberté. Ils sont des dizaines et des dizaines dans les rues des villes et des villages de votre propre pays, Denis Mukwege, le Congo. Et votre livre est aussi un livre très fort par rapport aux propositions d'avenir et par rapport à la pensée de la violence et des crimes organisés et planifiés sur le corps des femmes noires. J'insiste sur le mot « noir ». Parce que vous nous livrez aussi des réflexions sur la post-colonisation et sur le fait que si les femmes partout dans le monde sont hélas l'objet des violences des hommes et des crimes des hommes, plus particulièrement cette violence s'exerce sur les femmes noires. Est-ce que vous pensez qu'il y a un rapport entre la colonisation des blancs sur les noirs et la violence faite aux femmes aujourd'hui noires, mais peut-être aussi blanches?
Je pense que être femme et noire, ça vous met dans une position beaucoup plus difficile. Et on peut voir les statistiques, par exemple aux États-Unis, quand il s'agit des viols et des violences qui se commettent, on verra que les femmes noires sont soumises à plus de violences que les femmes blanches. Mais ici, je veux vraiment souligner que la violence, elle concerne toutes les classes sociales. La violence concerne tous les continents. J'ai eu le privilège de voyager en Europe, en Asie, en Amérique, et malheureusement, notre société aujourd'hui ne fait pas suffisamment d'efforts pour faire évoluer cette question de violence faite aux femmes. Et c'est vrai que parfois, la tendance est de penser que nous sommes dans des pays où l'état des droits est respecté, mais quand on voit toutes les barrières qu'une femme peut avoir, y compris même ici en France, pour avoir la justice, finalement, c'est très très décourageant pour les femmes. Donc, je pense que, comme la situation de ma mère d'ailleurs, j'ai dit qu'elle avait à franchir trois barrières. Je pense que lorsqu'on est dans une société où il y a le racisme, en fait, la situation des femmes devient encore beaucoup plus compliquée. Mais c'est une situation qui est globale et qui demande une action globale. Nous devons joindre nos forces sur cette question qui est universelle.
Dans la dernière partie de votre livre, Denis Mukwege, vous indiquez des orientations, non pas pour essayer de nous sortir de cette criminalisation du corps des femmes, mais pour essayer en tout cas de l'endiguer, voire de la réfréner. Et j'espère, un jour viendra où elle n'aura plus lieu. Et parmi ces propositions, il y a l'éducation. Mais l'éducation, il faut la faire partout. En Occident, comme en Afrique, comme en Orient.
Absolument. Je pense que la clé aujourd'hui, c'est l'éducation. Moi, j'y crois et c'est à ce sujet que je parle de la masculinité positive. Cette masculinité, elle est acquise. Les jeunes, les garçons ne naissent pas avec cette masculinité toxique qui les amène à des agressions sexuelles.
Et les femmes aussi, parce que vous faites remarquer à juste titre, Denis Mukwege, en tant qu'obstétricien, que quand une femme attend une fille, quelquefois elle vous dit « Oh là là, mais quel malheur, c'est une fille !»
vous savez, Madame Adler, aujourd'hui, dans des pays comme la Chine ou l'Inde, où on fait une sélection et on fait l'infanticide sur les grossesses qui portent des filles, quel est le résultat? Ça veut dire tout simplement, on ajoute la violence, puisque quand il n'y a pas suffisamment de femmes, les hommes deviennent encore beaucoup plus agressifs par rapport au petit nombre de filles qui sont là. Et je pense que cette mentalité de considérer l'homme comme en fait supérieure à la femme, qui fait qu'on privilégie la grossesse lorsque cette grossesse porte un garçon et qu'on doit faire un avortement si c'est une fille. Les femmes que je consulte, lorsque vous dites c'est un garçon, qui se met à pleurer, qui ont le sentiment qu'elles ne vont pas accoucher d'un humain, moi je pense qu'il faut absolument lutter contre cette mentalité. C'est pour cette raison que dans ce livre, j'ai dit, l'éducation doit commencer du berceau. Je dirais même que ça doit commencer in utero. Donc, lorsque la femme porte une grossesse, que ça soit une fille ou un garçon, elle doit apprendre à être heureuse par rapport à cette grossesse. Elle doit transmettre cette joie à cette grossesse pour que lorsque l'enfant arrive, que cet enfant soit garçon ou fille, qu'elle puisse l'élever avec une éducation qui permet à ce que cet enfant puisse respecter les autres, et spécialement les garçons. Je crois que les femmes participent à cette masculinité toxique, puisque lorsque vous élevez les garçons, lorsque on veut montrer, donc le modèle qu'on veut montrer aux garçons, c'est la force, c'est la violence, etc. Les sports qu'on veut que les garçons puissent faire, c'est des sports qui montrent qu'ils sont forts, etc. Après, ça a des conséquences. Et je crois que l'éducation doit commencer du berceau jusqu'à l'âge adulte. J'ai insisté beaucoup dans ces livres sur le fait que, par exemple, dans ma culture, et peut-être partout ailleurs où je suis passé, les parents prennent beaucoup de temps pour éduquer leurs filles et leur montrer qu'ils doivent faire attention par rapport à leur sécurité, par rapport au risque d'être violés. Mais combien de parents prennent le temps pour discuter avec leurs garçons par rapport au consentement lors d'un rapport sexuel? Et je pense qu'à partir du moment où nous ne pouvons pas discuter avec notre garçon pour leur montrer les conséquences de forcer une fille à avoir des rapports sexuels avec elle, mais lorsque c'est notre fille, nous l'éduquons pour qu'elle fasse attention à ne pas être se mettre dans des situations où elle peut être violée. Ça montre très bien que, en fait, c'est une éducation qui est tout à fait différenciée. On a peur pour les filles, mais pour les garçons, c'est comme si on disait, écoutez, vas-y, tu vas te débrouiller, et puis on verra ce que ça va donner. Mais ce que ça donne, c'est la violence. Alors que si on prend le temps de les éduquer, absolument qu'on peut réduire et faire en sorte que le viol puisse être tout à fait minimisé dans notre société.
Merci infiniment, Denis Mukwege. Je sais qu'il y a de nombreuses auditrices et auditeurs qui vont demander comment vous aider. On n'a plus le temps, mais on trouvera ça sur notre site. On peut vous aider. Vous allez retourner dans votre hôpital au Congo, mais vous avez maintenant une fondation et on peut aider tout ce que vous faites. Merci infiniment. Le livre s'appelle « La force des femmes » et il vient de paraître chez Gallimard. Merci pour ce que vous êtes et merci pour ce que vous faites.
Merci, madame.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour. Enchaîner, enchaîner. Enchaîner, enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs. Alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés.
Et vous avez peut-être reconnu Bernard Lavillier, Le Cœur du Monde. Merci à Mathias Alléon qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Iris Vertanessian et Céline Villegas et à Livian Alloum qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission.